journal.
Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, des renforts américains en Irak, la vantardise du Premier ministre britannique qui prétend avoir divisé par deux son ardoise de 2 milliards d'euros, les promesses du chef de l'État français, un choc de démocratie articulé par François Hollande en présence de représentants de France Nature Environnement, pourfendeur du projet de barrage de Sivens. Et puis comme chaque samedi, le coup de projecteur économique d'Emmanuel Kessler. Ce matin, il pose son regard sur la BCE à la veille de l'injection de 1 000 milliards d'euros dans l'économie européenne. Ces trois derniers mois, l'état-major de l'armée irakienne a fait le constat que ses troupes manquaient d'expérience et de savoir-faire face à des djihadistes mobiles bien entraînés et suréquipés à plusieurs reprises, et particulièrement dans la province d'Al-Anbar. Les troupes gouvernementales ont remporté des batailles sans être en mesure de tenir leur position. La nuit dernière, les États-Unis ont accédé à la demande de Bagdad et envoyé sur le terrain 1 500 conseillers militaires supplémentaires. Précision de Washington de Frédéric Carbon.
Avant l'été, quand Barack Obama annonce un prudent retour des États-Unis en Irak, il envoie 300 hommes autour de l'ambassade américaine à Bagdad. D'ici la fin de l'année, ils seront 10 fois plus dans la capitale, mais aussi à Erbil, dans le Kurdistan, et encore dans la province d'Anbar, où les troupes supplémentaires vont être déployées. C'est une région où le groupe État islamique progresse. C'est la province sunnite où se trouvent les villes de Fallujah et Ramadi, les pires souvenirs de la guerre en Irak. Ces soldats gardent officiellement un rôle de conseiller. Ils sont là pour entraîner les Irakiens, mais de fait, ils seront au plus près des combats, la mission devient plus périlleuse. Barack Obama répond ainsi à une demande pressante de l'état-major. Depuis des semaines, ces renforts étaient réclamés. Les troupes irakiennes sont considérées comme incapables de faire reculer toutes seules les djihadistes. Le président américain rentre donc dans cette logique du toujours plus de soldats connus lors d'autres conflits. Et il le fait au moment où le Congrès est totalement contrôlé par les républicains. À chacun ses responsabilités, semble dire Barack Obama. Moi, je prends les miennes. À vous de me soutenir.
Les ministres des Finances de l'Union européenne ont donc proposé d'accorder un délai de paiement jusqu'au 1er septembre 2015 pour les contributions au budget commun revues à la hausse. Cette date butoir correspond au moment où les Européens se penchent sur les budgets de l'année suivante. Elle remplace donc celle du 1er décembre prochain, contre laquelle le Premier ministre britannique avait protesté avec véhémence. David Cameron s'est vanté de sa victoire sur son compte Twitter. Ouvrez les guillemets. J'ai dit que je ne paierais pas 1,7 milliard de livres, donc 2,1 milliards d'euros. Le 1er décembre, j'ai réduit l'addition de moitié et je ne paierai rien avant juillet prochain. J'obtiens des résultats pour le Royaume-Uni. Fermez les guillemets. Petits arrangements avec la réalité et Johanna Hochstein, agacement en coulisses.
En privé, il y a ceux qui s'agacent des cris de victoire des autorités britanniques. Oui, le Royaume-Uni a en effet bénéficié d'un délai supplémentaire pour payer son addition. Oui, Londres pourra également étaler ses paiements. Mais non, le montant de l'ajustement britannique n'a pas été réduit, a rappelé le ministre irlandais des Finances. Londres devrait en fait simplement pouvoir profiter d'une augmentation de son rabais annuel, le fameux chèque britannique. Ceci lui permettrait de ne payer qu'environ la moitié de la contribution qui lui était réclamée cette année, soit environ 1 milliard d'euros. En fait, personne ici n'apprécie réellement les coups de sang et les menaces proférées par David Cameron, lui qui ne cesse de répéter qu'il est hors de question qu'il sorte son carnet de chèques. Dans les couloirs des institutions européennes, certains n'hésitent plus à qualifier ces réactions d'insupportables. Mais il faut faire preuve de souplesse, insistait le ministre espagnol à son arrivée à Bruxelles. Comprenez, il ne faut pas donner du grain à moudre à ceux qui prônent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Johanna Hochstein à Bruxelles. L'association France Nature Environnement a été reçue hier à l'Élysée par François Hollande. Une entrevue souhaitée par FNE suite à la mort d'un de leurs militants, Rémi Fraisse, lors de la manifestation contre le barrage de Sivens le 26 octobre dernier. Hier, François Hollande a fait deux promesses aux représentants de FNE, celle d'un choc de démocratie et d'une remise à plat du dossier controversé du barrage de Sivens dans le Tarn. Écoutez, Benoît Hartmann, porte-parole de FNE, il répond aux questions de Véronique Rebérot.
Nous avons obtenu du président de la République pour l'instant que des promesses d'un choc de démocratie tel que nous le demandons, parce que nous prétendons que ce qui est arrivé à Sivens est bien le résultat d'un dysfonctionnement démocratique. Nous avons obtenu la promesse qu'à la prochaine conférence environnementale en fin novembre, on aborderait cette question-là et que ce serait le premier acte d'une réflexion plus longue sur la façon dont on va construire ce choc de démocratie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire une meilleure prise en compte de la parole de la société civile dans l'élaboration de la décision publique. Il faut comprendre qu'un certain nombre d'organismes dans lesquels la société civile est représentée, comme l'ONEMA qui s'occupe des questions d'eau, ou le CNPN qui s'occupe des questions de biodiversité, ont rendu des avis négatifs sur Sivens et que l'État est passé outre ces avis et a décidé de faire quand même. Il faut bien comprendre que ces moments-là où on associe le public, mais in fine on ne prend pas en compte sa participation, sont comme des insultes qui nous sont infligées et que si on n'a plus d'autres moyens de s'exprimer que de manifester, alors nous sommes contraints à manifester.
Et puis une remise à plat, c'est ça du dossier ?
Oui, nous avons obtenu aussi le fait qu'il accepte la remise à plat du dossier, sachant que nous demandions que le dossier soit enterré et que nous abandonnions. Nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Nous aurions voulu une parole du président qui parle de l'abandon du projet. Au moins, a-t-il convenu du fait qu'il faille remettre à plat ce dossier.
Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement. La France n'est pas en retard, mais elle doit savoir comment permettre à l'économie française de s'adapter aux défis et aux transformations apportées par le numérique. C'est l'objet du rapport remis hier par Philippe Lemoine à Axel Lemaire et Marie-Lise Lebranchu pendant 9 mois. Il a consulté des acteurs et experts bien au-delà de la simple filière numérique. Catherine Pétillon.
L'ensemble des activités économiques sont désormais concernées et toutes doivent s'adapter aux nouvelles règles du numérique, ce que Philippe Lemoine appelle la grammaire. D'ici 15 ans, plus de la moitié des emplois européens disparaîtront ou seront très largement transformés par le numérique et les changements sont loin de se limiter à des questions d'outils ou de technologies. Le rapport Lemoine distingue ainsi 3 grands types d'effets, l'automatisation qui modifie les modèles de production, la dématérialisation et les nouveaux canaux de communication et de distribution qu'elle fait apparaître, et enfin la place des données et le nouveau rôle joué par les personnes. Car désormais, ce ne sont plus les entreprises qui tirent l'économie, insiste Philippe Lemoine, mais les individus. C'est de leur équipement, de leurs pratiques que naissent de nouveaux fonctionnements comme l'économie du partage. En réponse à ces transformations, le rapport Lemoine formule une série de 180 propositions à mettre en œuvre dans le cadre d'un plan triennal. Elles concernent aussi bien la santé, l'éducation, la transformation de l'emploi que la gouvernance numérique. État, entreprise, fondation, individu, comment redéfinir les places et les rôles de chacun de ces acteurs ? C'est cette question avant tout politique que pose la transition numérique.
Il est 8h07, c'est l'heure du coup de projecteur économique, comme chaque samedi. Votre coup de projecteur, Emmanuel Kessler, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel, la Banque Centrale Européenne prête à sortir les grands moyens pour relancer l'économie de la zone euro. Jeudi dernier, petit rappel, lors de la réunion mensuelle de l'institution à Francfort, son président, l'Italien Mario Draghi, a évoqué la possibilité d'injecter jusqu'à, tenez-vous bien, 1 000 milliards d'euros dans l'économie européenne, un scénario qui semble créer des tensions au sein de l'institution. Pour quelle raison ?
Oui, en langage banque centrale, on appelle ça sortir le bazooka. Au cinéma, ce serait Super Mario dans l'arme fatale. Depuis la crise, la BCE a utilisé des armes classiques, baisse des taux d'intérêt, quasi nulle, prêt aux banques, pour relancer l'économie en facilitant le crédit. Mais elle n'est jamais allée jusqu'à acheter directement des emprunts d'État, c'est-à-dire financer les dettes publiques, ce qu'on appelle communément faire marcher la planche à billets. Une mesure dite non conventionnelle, utilisée en revanche outre-Atlantique par la Fed, la Banque centrale américaine, avec un certain succès puisque l'économie américaine est repartie. La nouveauté depuis jeudi, c'est que la BCE envisage d'utiliser à son tour cette arme monétaire ultime, une façon de déverser un déluge d'euros jusqu'à 1 000 milliards du haut d'un hélicoptère sur le vieux continent pour repartir, retrouver une croissance désespérément en panne et conjurer le risque de plus en plus grand de la déflation, baisse généralisée des prix qui finit par paralyser complètement l'économie.
Mais le problème, c'est que c'est une position sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord au sein de la zone euro et qui n'est pas potentiellement sans risque.
Oui, et le problème, comme vous dites, il est allemand. Pour les Allemands, cela revient à briser un colossal tabou. C'est envoyer un signal encourageant à nouveau le laxisme budgétaire des États, comme la Grèce ou la France. Et puis l'Allemagne reste hantée par le souvenir de l'hyperinflation des années 30, partie de la planche à billets. Alors toute la semaine, des rumeurs ont couru sur des dissensions au sein de la BCE, des critiques violentes contre Mario Draghi. On imagine d'où sont parties ces fuites. Mais jeudi, finalement, Draghi a remis les pendules à l'heure, brandi un communiqué signé à l'unanimité des membres du directoire de la BCE. L'Allemagne, touchée désormais, elle aussi, par un ralentissement, serait à deux doigts de se résigner au grand saut. Mais attention, la facilité monétaire de toute façon ne suffit pas. Les gouvernements doivent aussi faire leur boulot, Aide-toi, Mario t'aidera, n'est-ce pas, monsieur Hollande?
Merci à vous, Emmanuel Kessler. Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Temps pluvieux sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Sur le reste de la moitié nord, du gris ce matin, du soleil dans l'après-midi. Journée lumineuse sur le sud-est.